Il allait siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu.
Bienvenue sur le podcast officiel du festival Valence Scénario 2019. Vous allez écouter le troisième épisode. Bonne écoute! Nous recevons aujourd'hui Jérôme Duc-Mauger, producteur de documentaires, fiction et animation au sein de la production Parmi les Lucioles. Il nous parle pitch, de la difficulté d'en faire et de ses projets en préparation.
Bonjour, merci d'être là pour cette interview. Est-ce que vous pouvez vous présenter en une phrase?
Je suis producteur depuis une vingtaine d'années.
D'accord.
Je produis au sein de deux sociétés que j'ai montées avec d'autres producteurs. Du documentaire, de la fiction et de l'animation.
Donc vous êtes là pour participer à la conférence écrire et présenter un scénario de fiction. Quel est votre rôle?
Moi j'interviens sur les trois derniers jours.
Okay.
Donc dans la continuité du travail de Jean-Marie Roth, qui a lui eu les stagiaires, il y en a 12 pendant à peu près 8 jours sur justement écrire un scénario, les techniques, voilà. Et nous on est trois producteurs, on les récupère après ça pendant 3 jours, on les entraîne au pitch. Et en même temps, finalement, on les aide à reformuler leur idée, leur scénario après 8 jours avec Jean-Marie. Parce qu'en fait, ils sont ils ont appris plein de techniques, mais certains ont découvert les points forts et les faiblesses de leur projet. Donc, on leur apprend aussi à pitcher au bon moment en fonction de ce qu'on a.
Donc, il va y avoir une retransmission?
Oui, mais qui n'est pas publique. Ça se passe de la façon suivante. On est trois producteurs, on les voit tous un par un. Et donc, ils sont censés, et d'ailleurs, c'est le cas, progresser dans la présentation, dans le pitch de leur projet. Et enfin, le dernier jour, le troisième jour, ils pitchent devant les autres élèves, aux trois producteurs, et là, cette fois-ci, on est un peu en condition réelle du pitch et on leur fait chacun un retour. Voilà.
Est-ce qu'il y a des projets que vous avez préférés ou qui vous ont marqué?
Oui, il y a des beaux projets, oui, tout à fait. Oui. Il y a des gens qui ont des choses à dire.
Est-ce que c'est du coup votre première fois au festival?
Ah non, donc c'est la deuxième fois que j'interviens dans cette formation. Je l'avais déjà faite l'année dernière et je suis déjà venu 5-6 fois au festival, ouais, en tant que producteur pour rencontrer des scénaristes.
Vous, votre production, elle est où? Elle est en Paris?
Alors nous, on est basé entre... le siège social des sociétés est à Lyon, en Rhône-Alpes. Et ensuite, on a des producteurs, on a une productrice qui travaille sur de l'animation qui est à Valence et une autre, plus particulièrement sur la fiction, qui est à Paris.
D'accord.
Voilà.
Okay.
Mais voilà, on est un peu partout, quoi.
Vous avez participé, vous avez produit, du coup, au poil de Hélène Friren.
Ah oui, ça remonte un peu, mais c'est un court... Non, mais c'est bien que vous m'en parliez, parce que c'est un court-métrage que j'aime beaucoup.
Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Est-ce que je vous fasse un pitch 8 ans après l'avoir produit?
C'est possible.
Elle est bien bonne, celle-là. C'est un jeune homme qui se fait plaquer par sa copine et sa copine part avec le poisson rouge. Donc il se dit, je vais remplacer, faute de remplacer ma copine. Il se dit, parce que tout ça, il n'y a pas de dialogue, hein, c'est un film muet. Mais il descend donc dans l'animalerie en bas pour acheter un poisson rouge. Et au moment où il passe devant les poissons rouges, il se fait happer par une sorte de hamster qui fait un petit signe et qui donc se rend intéressant devant lui. Et finalement, au lieu de repartir avec un poisson rouge, il repart avec un hamster. Et en fait, va se mettre en place une relation assez particulière entre ce jeune homme et ce hamster, où le hamster va prendre de plus en plus de place et va devenir une sorte de... va réveiller en fait en notre héros, en tout cas notre protagoniste, je ne sais pas si on peut vraiment parler de héros dans ce court-métrage, un protagoniste, une relation assez particulière à son animalité. Et le hamster va prendre de plus en plus de place, va manger de plus en plus. Et lui, il va devenir un petit peu d'ailleurs le serviteur de cet animal, qui va devenir gros, grossir, un peu comme un humain, jusqu'au moment où en fait, le hamster va prendre l'ascendance sur ce personnage-là, au moment où la porte de la chambre à coucher se ferme sur les deux qui sont dans le lit. C'est très transgressif, mais c'est très marrant.
Bah, voilà. Du coup, c'était en animation ou...
C'est en animation, ouais. Okay. C'était le deuxième cours d'Hélène Friren, qui avait fait, je crois, avant Mitoyenneté, dans le cadre de La Poudrière. Et ensuite, avec elle, on a fait sa première série d'animation, là, elle en a sa troisième, qui était une série d'animation originale, qui s'appelait Juliette Génération 7.0, toujours pour Arte. Juliette Génération 7.0, c'est une série originale qui avait été développée dans le cadre, vous savez, du premier appel à projet qu'ils avaient fait pour l'Access Prime Time, les programmes courts qui cherchaient soit en prise de vue réelle, soit en animation, avant le 28 minutes. où il y a eu Silex and the City derrière, tout ça. La Minute Vieille, voilà. Donc on faisait partie, nous, des premières séries. On a fait deux saisons. Et donc le pitch est Juliette Génération 7.0, 7.0 comme en fait 70 ans, mais aussi pour le côté un peu électronique. C'est-à-dire que c'est une grand-mère hyperactive et geek, et qui, par ce caractère-là, ses caractéristiques, finalement, questionnait plein de sujets de société. Ça allait de l'homoparentalité, parce qu'à l'époque, la loi n'était pas encore passée, aux prothèses mammaires, en passant par des problématiques d'éducation. Voilà, tous les sujets, en fait, pouvaient y passer. Voilà, c'était assez marrant.
Pour revenir donc à votre pluralité de formats, donc fiction, animation, documentaire, quelle est votre ligne un peu éditoriale?
Notre ligne éditoriale, c'est notre curiosité. Et la curiosité des producteurs et des réalisateurs et des auteurs avec qui on travaille. C'est-à-dire que finalement, il y a beaucoup de choses qui se font et qui sont faites, mais à un moment, c'est ce qui fait qu'on a envie de faire. En tout cas, nous, ça fait beaucoup mot de faire, mais bon, finalement, c'est pour ça que... Ce qui fait qu'on a envie de partir sur un projet, c'est le fait qu'il nous rend curieux, quel que soit son format et qu'est-ce que... Voilà. Et pour ça, finalement, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un auteur ou un porteur de projet, quelque chose à dire, qui a un point de vue sur un sujet, voilà. Et ensuite, après, qui raconte cette histoire-là, qui traite ce sujet-là, à partir de faits réels sur un documentaire ou avec des personnages de fiction, ben, finalement, voilà, c'est ça qui nous meut.
Et vous, quel est le sujet, si vous en aviez un, qui vous touche plus particulièrement?
C'est compliqué, hein, parce qu'on a traité en documentaire, on a dû faire à peu près 80 films. Un sujet peut-être pas, mais si on parle de société ou de société française, en tout cas, voilà, ce qu'on a de plus proche de nous. Ce qui est intéressant d'observer, c'est les problématiques éducatives. Parce que c'est là qu'on voit effectivement l'être humain qui grandit, qui se transforme, et c'est là qu'il y a des enjeux intéressants qui se passent. Alors c'est moins un sujet finalement qu'une tranche d'âge, voilà. Effectivement, la petite enfance, l'adolescence, c'est des moments où il y a plein de choses qui se créent, le jeune adulte aussi, voilà. Alors après, moi je suis assez sensible aux évolutions de notre société. On parlait tout à l'heure avec un auteur de l'homme augmenté, voilà, vers quoi on va, pourquoi on y va, comment on y va, voilà. Alors après, on peut le traiter soit avec de la fiction, soit avec des documentaires scientifiques, soit avec des documentaires de société, voilà, ou en animation, voilà, peu importe après la forme. Mais voilà, moi je suis plutôt sensible effectivement au devenir de l'humanité, on va dire. C'est très large comme réponse.
Et si vous pouviez nous parler un petit peu plus de La Femme Canon, de Albertine et Germano Zullo.
Très bien. Alors nous, on est rentrés en fait dessus en tant que deuxième producteur, puis après il y a un troisième qui est l'ONF. C'est un film qui a été initié par Helium Film, donc la société de Claude Barras, et qui cherchait un producteur français. Voilà. Donc nous, on est rentrés en tant que producteur français. Donc c'est vraiment en fait la problématique d'une coproduction internationale. C'est-à-dire que voilà, on a un producteur qui a besoin d'argent et qui se dit ben je vais travailler avec la France parce que c'est un pays voisin et ils peuvent lever des fonds dans leur région, une chaîne de télévision. Voilà. Donc après, il y a un travail d'accompagnement de l'écriture malgré tout qu'on a pu faire. Ensuite, on a Canal est monté, la région Rhône-Alpes, le CNC. Et puis, au moment de boucler, c'est-à-dire sur la post-production, l'ONF, donc au Canada. Alors après, nous, on a pris en charge... il s'avère que donc les producteurs exécutifs qui ont travaillé sur le projet-là du côté de la France étaient respectivement... assistant réalisateur et assistant opérateur. Ils ont l'habitude de travailler avec Claude Barras, notamment sur Maïd Courgette. Et donc, ils ont eu ces postes-là aussi sur le court métrage. Donc, on a les décors qui ont été fabriqués en Rhône-Alpes. Certains éléments aussi des marionnettes et des vêtements. Et le film a été, pour le coup, tourné à Lausanne. Voilà. Et on a fait la post-production, donc, je vous disais, au Canada et aussi un petit peu au Portugal, parce que le musicien vit au Portugal. Donc, voilà. Et qui a eu un beau succès d'ailleurs international. Belle visibilité, je ne pourrais pas vous dire combien de festivals, mais plusieurs dizaines. Hein.
Vous êtes en train de travailler sur l'adaptation de Power Club avec Alain Gagnol.
Parce qu'on fait plusieurs choses avec Alain en fait. On est en train de finir son premier court-métrage en prise de vue réelle. Ça a été super à faire, c'est-à-dire que... Alain, ça fait des dizaines de mois, 30 ans qu'il fait de l'animation. Il a fait donc une vingtaine de cours avec Jean-Louis Felluccioli et lors de longs métrages Invitcha et Phantom Boy. Et donc quand moi j'ai rencontré, je connaissais Alain depuis longtemps parce que je suivais son travail évidemment, puis on se croisait de temps en temps, mais quand on s'est rencontrés pour travailler ensemble, en fait, il travaillait déjà avec un producteur en animation, donc on s'est vu pour faire de la prise de vue réelle. Et il m'a dit j'ai envie de faire de la prise de vue réelle. Et on s'est dit on va commencer, voilà, on a eu différentes idées, des séries, des unitaires, et puis ce court-métrage-là qui s'appelle La solitude est un animal de compagnie, qui est en fait un court-métrage qu'on est en train de terminer, qui fait 20 minutes pour Canal+, et qui raconte un petit peu les affres d'un écrivain au travail, et qui pour en fait arriver à écrire un livre, c'est un huis clos en fait dans sa maison, communique avec ses personnages. Donc c'est à moitié lui qui écrit, soufflé par ses personnages qu'on voit comme ça tourner. Donc c'est une mise en abîme finalement du travail d'écrivain ou de scénariste. C'était un pari, double pari, parce que des mises en abîme c'est toujours très difficile. Et puis aussi c'était son premier film en prise de vue réelle. Et ça s'est très bien passé en fait. Le montage image vient d'être terminé et c'est plutôt assez prometteur. On attend avec impatience de finir tout le reste, musique, étalonnage et surtout bruitage. Hein, parce qu'on, du coup on va assez loin comme il a l'habitude de le faire en animation sur un dessus. Puis on a décidé en fait de développer leur prochain long métrage d'animation. Donc Jean-Loup revient dans la boucle, Jean-Loup Felluccioli. Et le film s'appelle Les Contes du Hérisson. Et on l'a présenté au Cartoon à Bordeaux il y a à peu près un mois, au mois de mars, et la présentation s'est très bien passée. C'est une très belle histoire originale autour de la perte de l'emploi, du chômage. C'est un sujet finalement qui peut être un peu anxiogène, mais dont les enfants, et notamment notre cible, les 5-8, entendent souvent parler, que ce soit à l'école, que ce soit dans la cour de récréation, dans la famille, à la radio. Voilà. Et on s'est dit que c'était intéressant, effectivement, de s'attaquer à un sujet comme ça, qui peut être anxiogène, justement, un petit peu pour le détraumatiser. Alors l'histoire, elle est assez simple. C'est l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Mina, et qui grandit de ses 5 ans à ses 10 ans, jusqu'au moment de la fin de l'acte 1, qui grandit en fait avec une histoire de son papa, que son papa lui raconte tous les soirs, une histoire d'un hérisson qui cherche du travail. Et comme il est hérisson, en fait, il veut rentrer dans le monde des hommes. Et comme il est hérisson, il ne trouve pas, c'est-à-dire qu'il veut être pompier, il crève les tuyaux, il veut faire du pain, il y a une aiguille qui tombe, il veut vendre des ballons, voilà. Et cette petite fille, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, grandit comme ça, avec cette représentation de cet animal qui cherche du travail. Brutalement, son papa arrête de lui raconter ces histoires-là quand elle a 10 ans. Non pas parce qu'elle a 10 ans, mais parce qu'il y a eu une grosse lutte sociale à l'usine, et l'usine ferme, parce qu'il y a eu finalement des malversations, et le directeur est parti avec la caisse. Donc le papa n'a plus goût à raconter des histoires et rentre dans une sorte de dépression en fait. Il dit à sa fille, écoute, ça suffit, maintenant t'es grande, arrêtez. Notre héroïne, Mina, entend parler avec Mehdi, son petit copain qui a aussi 10 ans d'école, qu'il y a sans doute une somme d'argent qui est cachée dans cette usine parce que le patron, quand il a été arrêté, n'a pas pu partir avec tout l'argent. Et donc il décide, et on comprend bien pourquoi, hein, pour redonner goût à son papa, à la vie, et qu'il aille chercher du travail, et puis à la fois pour pouvoir continuer à avoir ses histoires, elle décide de partir à la recherche de cet argent et de braver l'interdit, c'est-à-dire le grillage qui emmène à cette usine, mais aussi le gardien qui est très méchant, qui est en lien avec le directeur qui est en prison, et puis le chien du gardien. Voilà. Et là on rentre dans un autre, hein, c'est le début de l'acte 2, et on rentre dans une histoire qui emprunte au code du film un petit peu, on passe du conte au film de Casse, un peu policier. Donc on commence effectivement avec un public les 5 ans, les 5-8 ans, on va chercher effectivement plutôt les 10 ans, puis on va boucler l'acte 3, puisque notre petit hérisson du début, les histoires du papa, trouve du travail chez un acupuncteur. Donc là, on est en train d'écrire on est en train de finir la première version dialoguée et qu'on va envoyer aux partenaires courant avril.
Bon, merci beaucoup en tout cas pour cette.
C'est moi qui vous remercie.